Rubichaud, ça va te donner très chaud.
Rubichaud,
ça s'écoute entre poteaux.
Rubichaud,
en métro ou au boulot.
Rubichaud,
des débats et des pronos.
Rubichaud,
bienvenue au Rubichaud.
Bienvenue à tous sur le plateau du Rugby Show. On espère que vous êtes toutes et tous bien installés confortablement pour cette partie 2. On voulait commencer l'épisode par des remerciements, car oui, vous étiez plus de 1000 la semaine dernière pour la partie 1 du débrief du mandat de Fabien Galthié. Et oui, ça nous fait chaud au cœur de voir votre fidélité, parce qu'on craignait qu'à la fin de cette Coupe du Monde, on allait perdre quelques auditeurs, et on voit que vous êtes encore plus nombreux. Et ça fait plaisir pour nous d'abord, et pour le rugby, de voir qu'il y a de plus en plus de fidèles. Voilà, ceci étant dit, la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, on a fait le bilan des 4 belles années de Galthié, de 2019 à 2023, comment il a repris l'équipe en main, comment il a réussi à structurer cette équipe de France et à la faire progresser. Cette semaine, dans la partie 2 du débrief du mandat de Fabien Galthié, nous, les chroniqueurs du Rugby Show, on va vous inviter à vous poser des questions, chers auditeurs. Pourquoi l'échec? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas réussi à atteindre notre objectif d'être champion du monde en 2023? Est-ce que c'est peut-être un pic de forme atteint trop tôt? Ou alors peut-être une fatigue mentale et une fatigue physique due à une préparation peut-être trop intense? On va essayer de vous fournir des réponses. Mais attention, on ne va pas tomber dans la sinistrose, on ne va pas s'enfouir dans le désespoir et on va essayer d'aller chercher cette lumière au bout du tunnel et essayer de voir les points positifs qui feront que, très certainement, on gagnera cette Coupe du Monde 2027. Sans plus attendre, je lance Clément, mon chroniqueur préféré, pour vous introduire tous ces sujets.
La Coupe du Monde de Fabien Galthié, messieurs, elle fait peine à voir quand on voit le bilan de ces 4 années avant la Coupe du Monde. Évidemment qu'on attendait mieux, évidemment même que toutes les autres nations rugby du monde attendaient mieux de la France. Il y avait le momentum de la Coupe du Monde qui se passe chez nous, il y avait une nation qui était revenue un peu au devant de la scène rugby mondiale. Donc il y avait cette espèce d'énergie qui devait faire de nous... qui faisait de nous en tout cas des grands favoris de cette Coupe du Monde, ou en tout cas des favoris de cette coupe, pour cette Coupe du Monde, pour la victoire de cette Coupe du Monde. La question que j'ai envie de vous poser, messieurs, du coup, la première question que j'ai envie de vous poser sur cette Coupe du Monde précisément, c'est peut-être le début, avec la préparation physique qui a été menée par Fabien et par son staff juste avant la Coupe. Est-ce qu'on a mal géré cette prépa physique? Je rappelle d'ailleurs, et je souligne d'ailleurs, que Fabien n'est pas revenu là-dessus sur sa préparation physique estivale pendant la conférence de presse.
Échappé.
Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit.
Le problème, c'est que tu peux jamais savoir si une autre préparation physique t'aurait fait moins de blessés. Le constat, c'est le suivant. On n'a pas de blessés au début de la préparation. Et puis au début de la Coupe du Monde, on en a quand même quelques-uns. Tu as Ntamack qui est
majeur.
Ntamack, notre plus grosse perte, qui est out. Bay qui ne joue pas les premiers matchs. Marchand qui se blesse et qui va jouer au final que 10 minutes pendant la Coupe du Monde.
15.
Willemc. Excuse-moi. Et donc, bon, je ne sais pas ce qui se serait passé si on avait eu ces joueurs, mais c'est sûr qu'on peut se poser des questions pendant la prépa. Je pense que contre l'Afrique du Sud, on est cramé à la 60e et qu'il y avait sûrement mieux à faire, sachant qu'on est censé être une équipe plus fit, on va dire, que l'Afrique du Sud, qui ont plutôt eux, des gros sacs, même s'ils sont très, très musclés, qui, on va dire, il y a une débauche d'énergie plus grande chez ce genre de joueurs, alors que nous, on se dit qu'on peut leur mettre le feu en fin de match, mais c'est pas ce qui se passe.
Ouais. Elios, t'en penses quoi, toi, la prépa physique On en a pas mal parlé dans la presse. Enfin, on en a un peu parlé dans la presse quand même. Les blessures comme
ah oui.
Thomas, c'est des sources d'inquiétude assez énormes. Est-ce qu'on a mobilisé trop tôt des joueurs qui sortaient de phase finale de top 14? Est-ce qu'on en a trop demandé à des joueurs? Est-ce qu'on a mal géré l'atteinte du pic de forme?
Justement, j'allais y venir. Moi, je pense pas qu'on soit les bonnes personnes pour commenter comment a été fait la préparation. Bon, j'aurais adoré être au sein du groupe pendant toute cette préparation, et malheureusement, j'étais chez moi à Paris, bien au chaud, donc je pense pas qu'on ait les éléments ou les armes vraiment pour se permettre de juger cette préparation-là. Après, moi, Clément, je vais revenir sur ce que tu viens d'évoquer, là, et je pense que le problème, il est plus systémique, et désolé d'intellectualiser ce débat, mais je pense que le problème...
pardon de lever le niveau du débat.
Je suis vraiment... Je m'étais juré en plus de ne plus le faire. Je m'étais juré de ne plus le faire. Non, mais blague à part, moi, je ne pense pas que ce soit une préparation de 2-3 mois avant la Coupe du Monde qui fait que les joueurs se sont plus blessés. Moi, je pense surtout que c'est, comme je disais, systémique, et que le fait que, par exemple, un Romain Ntamack, ça faisait 13 mois qu'il n'avait pas pris de vacances, je crois, un Cyril Bay qui se blesse, un Marchand qui se blesse, ça c'est des mecs qui ont enchaîné une grosse saison de top 14, un gros 6 nations, une grosse période de phase finale, et ces mecs-là on leur a donné pratiquement pas de vacances, ils ont enchaîné directement sur la compétition de leur vie avec laquelle on leur montait la tête depuis 4 ans, et c'est juste pas humain, tu peux pas enchaîner autant de trucs, tu vois. Et quand tu regardes
ils ont enchaîné une bringue, tous les Toulousains, au final, la plupart, c'est les Toulousains qui se sont blessés.
Ah bah ouais.
Les mecs, ils ont célébré le titre, une semaine de bringue, une semaine de vacances, et puis c'est parti, prépa physique, qui selon tous les joueurs, était hyper difficile. Après, Ntamack, quand il se blesse contre l'Écosse, c'est clairement une blessure de fatigue. Hein. Le mec, il a son genou qui lâche, il a aucun faux mouvement, personne ne comprend ce qui se passe. Le mec, 2 jours plus tard, on annonce que c'est les croisés. Mmh. Ça, c'est clairement une blessure de fatigue. Enfin, je ne suis pas médecin. Hein, mais...
Non, mais complètement. Mais du coup, juste pour conclure, tu vois, quand tu regardes l'Irlande et l'Afrique du Sud qui jouent beaucoup moins de matchs, leurs joueurs jouent beaucoup moins de matchs au cours de la saison, eux, ils sont beaucoup plus formatés et concentrés sur les gros championnats internationaux qui sont le 6 Nations ou alors la Coupe du Monde, et t'as bien vu que eux avaient aucun blessé, et moi je suis convaincu qu'avec une équipe type sans blessé, par exemple pour Ntamack, je suis convaincu qu'on aurait été champion du monde et que ce petit point contre l'Afrique du Sud, on aurait réussi à le mettre de notre côté, tu vois. Donc voilà Clément ma réponse.
On dit fatigue physique, du coup, et vous êtes assez d'accord avec ça tous les deux. Moi, la question que j'ai envie de vous poser et qui rejoint un peu ce qu'on disait un tout petit peu plus tôt, c'est la fatigue mentale. Est-ce que Galtier a parlé de façon très haute, très philosophique, parlé de finale dès le match d'ouverture et même contre le dernier match de poule contre l'Italie? Est-ce que tous ces mots difficiles, tous ces mots très engageants, surtout avec la force qu'il a dans sa gestion des silences et la façon dont il est capable de rentrer dans la tête des joueurs, est-ce qu'il n'a pas également épuisé mentalement, selon vous, le 15 de France?
Ah, je ne sais pas s'il les a épuisés, mais c'est vrai que tu te dis toujours que quand tu compares relativement un match avec un autre, tu as envie un peu d'être sur une montée en puissance. Alors certes, le match contre les Blacks, c'était important de faire une grosse entrée dans cette Coupe du Monde. Et depuis 3 ans, on l'avait en tête, ce match contre les Blacks. Alors certes, depuis qu'on sait qu'on va les jouer, on les a battus une fois. Donc ça nous a un peu enlevé une certaine pression des épaules. Mais il se trouve que nous, on est à fond sur ce premier match et pas eux. Et qui se retrouve en finale, c'est eux et pas nous. Donc ouais, peut-être qu'on a mal géré cette arrivée du pic de forme. Finalement, le pic de forme, on ne sait pas. Moi, on n'arrêtait pas de répéter qu'il devait arriver au quart de finale, qu'il y avait un mois entre le premier match et le quart de finale. Je suis pas sûr. Enfin, je sais pas toi, Elio, ce que t'en penses. Est-ce qu'on était au pic de forme à notre quart de finale?
Ah non, je pense pas du tout. Et d'ailleurs, il en a parlé à Galtier. Plusieurs journalistes l'ont posé la question de s'il pensait avoir fait une erreur contre la Namibie d'avoir mis l'équipe type. Parce que les journalistes disent que le moment charnière qui a fait qu'on n'était pas forcément à notre pic, c'était le fait de mettre les titulaires contre la Namibie. Et aussi, il faut dire que le calendrier avec les jours de repos, les différents matchs, ça nous aidait pas forcément de commencer fort avec la Nouvelle-Zélande, d'avoir un petit mois de battement avec des équipes un peu moyennes de seconde tableau, de milieu de tableau, et ensuite de partir sur l'Afrique du Sud. Mais moi, Clément, je pense, comme tu dis, que son discours beaucoup trop peut-être intellectuel, philosophique, ça les a un peu éreintés, et comme disait Thomas, au rugby, il faut que ça monte crescendo, et les joueurs, tu les perds à force de toujours les accrocher, à leur dire demain c'est une finale.
C'est un peu trop mystique.
C'est ça.
Ouais, mais bon, moi, enfin, je sais pas, les gars, à chaque fois que j'entends les discours de Galtier, moi je vibre, j'ai envie de tout donner, tu vois, alors que je suis juste dans les tribunes.
T'en entends 15 minutes par semaine sur YouTube.
Surtout. C'est ça, Clément. Ah,
c'est pas la même chose. Moi j'ai l'impression que mentalement. Et tu vois, je pense que c'est la grande force d'Hugo Mola, par exemple, au Stade Toulousain, qui, à mon avis, réussit à mobiliser ses hommes dans des matchs importants en phase finale, et pour autant, sans donner moins d'importance aux petits matchs de l'année en top 14, réussit, à mon avis, à trouver les beaux mots et à garder les pieds sur terre.
Mais je pense pas trop, parce que gérer une sélection et gérer une équipe sur toute une année, c'est pas du tout pareil. Et évidemment, sur toute une année, t'as des hauts et des bas, etc. Là où je vois le peut-être le vrai truc là-dedans, c'est que nous, on a l'impression que la Coupe du Monde, on la prépare depuis 4 ans. Et on a clairement vu qu'au final, une Coupe du Monde, ça se préparait peut-être mieux en 4 mois qu'en 4 ans, ouais. par rapport à quand tu vois la Nouvelle-Zélande, quand tu vois l'Afrique du Sud, et même quand tu vois l'équipe de France en 2011, par exemple, en 2011, 4 mois avant la Coupe du Monde, il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas de projet de jeu. Et puis, ouais. pendant 4 mois, on s'y file, on ne s'est pas monté la tête pendant 4 ans.
Et on fait le même résultat.
Et on arrive en finale en 2011, tu vois.
Et en 2011, on arrive en finale.
Alors que personne ne nous attend, on perd contre les Tonga en poule. Enfin bref, il y a quelque chose qui se construit pendant ces 4 mois de préparation. Alors que là, on arrive au début des 4 mois de préparation, on est déjà dans la Coupe du Monde et on se voit la gagner. Donc ouais. C'est peut-être ça l'erreur, c'est pendant 4 ans d'avoir préparé la Coupe du Monde.
Juste pour conclure là-dessus, moi je pense qu'on peut pas non plus s'auto-jeter la pierre dans le sens où la campagne pour avoir la Coupe du Monde chez soi, elle date de, je sais pas, on a peut-être commencé pour l'avoir en 2023, on a peut-être commencé en 2017 à en parler, tu vois. Et donc, ouais. le rugby français, entre guillemets, il était dans la difficulté, comme on l'a évoqué en début d'épisode. Et la petite lumière qui nous faisait voir la lumière au bout du tunnel, entre guillemets, la petite lueur d'espoir, c'était ça, c'était cette Coupe du Monde à la maison. Donc, ça fait déjà plus que 4 ans, Thomas, ça fait déjà peut-être même 6-7 ans que le rugby français parle que de ça et n'est obsédé que par ça. Et les joueurs aussi, par la force des choses. Donc, je pense que c'est un peu compliqué, tu vois, quand tu sors d'une période difficile, avec une génération dorée, que la Coupe du Monde est chez toi, c'est un peu compliqué de ne pas se brûler les ailes. Et malheureusement, je pense que c'est ce qui nous est arrivé.
On se les a brûlés, quoi.
Ouais. Après, il y a quelque chose dont j'avais envie de vous parler aussi, c'est notre rapport à l'arbitre et à l'arbitrage. On a beaucoup parlé d'arbitrage pendant la Coupe du Monde, mais on n'a pas forcément envie de revenir sur les décisions, mais peut-être plus sur notre approche. On a un arbitrage qui est différent en top 14 par rapport à l'arbitrage qui est au niveau
c'est
international.
C'est une honte, ça.
Et à chaque fois, on se fait avoir. Les mecs, à chaque fois, on arrive et on se dit « Ah, mais ça aurait dû être sifflé, ça aurait pas dû être sifflé,
non,
c'est
mais
pas
c'est,
quoi. »
C'est honteux.
À un moment donné, il faut qu'on ait les mêmes règles partout. Sinon, si on joue toute l'année avec des règles différentes ou des subtilités différentes, ça va pas le faire.
Je suis totalement d'accord avec toi. C'est un peu comme si tu apprends à conduire sur manuel et puis tu apprends à conduire en automatique et on te lance en manuel le jour de ton examen, quoi. Bah voilà.
Ouais, bon. J'irai pas jusque-là quand même.
Si. Moi, j'irai jusque-là, monsieur.
Il y a quand même aussi des réunions avec les arbitres pour avant chaque match et des réunions qui se passent régulièrement pendant l'année avec tout le corps arbitral, les sélectionneurs et les instances de World Rugby. Et puis, nous, on a appris au Rugby Show que Galtier et le staff de l'équipe de France ne se rendaient pas beaucoup à ces réunions.
Même pas du tout.
Même pas du tout. Donc, est-ce que ça aussi, ça a joué sûrement de la façon dont on nous voyait les arbitres en mode les Français, ils sont arrogants, ils viennent pas aux réunions, et même dans notre façon nous d'approcher ça et d'appréhender l'arbitrage, peut-être qu'on avait moins d'infos que les autres.
Moi, je suis d'accord avec toi, mais là où je te rejoins pas, c'est qu'à mon avis, c'est pas de l'arrogance, c'est l'inexpérience. On est, à mon avis, hyper inexpérimenté et hyper naïf sur le pouvoir. Que politique qu'on doit avoir sur les arbitres, sur l'importance et le lobbying qu'on doit faire auprès des instances de World Rugby. Et ça, pour moi, c'est de l'inexpérience.
Ouais. Après, moi, j'ai l'impression que ça illustre très très bien, entre guillemets, le français et le comportement des Français. Tu vois, j'ai l'impression que souvent, le Français, il est habitué à faire les tâches qu'on lui impose, il fait ce qu'il faut faire, mais il ne va pas forcément au-delà des choses. Tu vois. Et le Britannique, dans son approche sociale, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus ouvert. Et c'est comme au travail, tu vois, si ton patron, tu vas le voir sans lui faire de la lèche, mais si tu es un peu plus intéressé sur quels sont les projets futurs, sur quel apport supplémentaire tu peux donner à l'équipe ou à la société, là, au rugby, c'est pareil. Tu vois. Les instances arbitrales, je pense qu'elles voient que les Français se désintéressent un peu de ce processus d'amélioration de la règle et du système international. Et du coup, les mecs, évidemment, ils font pas un pas vers nous. Et moi, je pense que ça sert à rien qu'on continue à se plaindre des choses qu'on contrôle pas, parce que ça, à chaque fois, c'est pareil. On se plaint de l'arbitrage a posteriori, après les matchs, mais ça, on peut pas le contrôler. Et on ferait mieux de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Et comme disait Thomas, peut-être que de participer un peu plus aux réunions, de mettre un vrai pied dans World Rugby, peut-être que ça nous
fait beaucoup de bien. Politique, c'est une instance politique, World Rugby. Il faut évidemment être proche de World Rugby.
Et tout va ensemble, le politique, le sportif, tout est intimement lié.
En fait, évident. Le politique, on l'a réussi. On a fait un énorme boulot au niveau national pour mobiliser les clubs, etc. Mais c'est en ça. Fait, on n'a pas réussi à le faire au niveau international.
Ouais, ça va venir.
Arrêtez le cochon.
Après, ça va venir.
Mais c'est une expérience.
Ouais, c'est compliqué de tout réussir tout de suite. Mais par exemple, toi, moi, je pense qu'on va dans la bonne direction. Notamment, la Galtier, il l'a mentionné plusieurs fois dans ses interviews qu'il a fait cette semaine. Il dit qu'il y a une vraie collaboration avant et après le match avec World Rugby et avec les corps arbitrales, par exemple, à la suite du match de la défaite 29-28 contre l'Afrique du Sud en quart de finale. Galtier et son staff Ils ont envoyé 9 clips vidéo de séquences du match de France-Afrique du Sud qu'ils ont envoyé à World Rugby et qu'ils ont pu, entre guillemets, débriefer avec...
Et Ben O'Keefe.
Et voilà, qu'ils ont pu débriefer avec Ben O'Keefe et son équipe. Et c'est là aussi qu'on va progresser, tu vois.
Bien sûr.
Pour le futur, ça peut que nous servir de s'intéresser de plus proche à l'arbitrage.
Ce qui est toujours chiant, c'est qu'à un moment donné, les arbitres font pencher la balance. Quand je veux dire, on a perdu. J'ai connu ma première demi-arbitrale en demi-finale contre Clermont. Ce soir, je viens d'en connaître une seconde. J'aime pas ça. Ça me plaît pas trop, ce genre de choses.
Bon, allez, on se fait un petit bilan des 4 ans avant de parler du futur. J'ai une question pour vous. Est-ce que notre pic de forme, on l'a pas atteint en 2022, l'année où on fait le grand chelem?
Parce qu'on gagne le tournoi, j'ai envie de te dire oui. Moi, j'ai eu le sentiment, un peu après 2022, enfin un peu après la victoire, en effet, j'ai eu le sentiment qu'on était peut-être prêt un peu trop tôt. Mais en vrai, être prêt trop tôt, c'est, enfin, tu vois, quand tu passes un examen, être prêt trop tôt, c'est pas très grave.
Mais bon, c'est pas pareil. Là, t'as tout un aspect mental, t'as un aspect physique, t'as un aspect de relâchement quand t'es au top. C'est là, en 2022, on est là, on fait le grand chelem. Moi, on jouait un rugby de fou furieux. Et après, j'ai eu l'impression qu'on était peut-être légèrement sur le déclin. Enfin, en tout cas, on n'était pas dans le progrès. Et quand t'es pas dans le progrès, bah, t'as les autres mecs qui te rattrapent. Ils t'analysent et ils analysent tes faiblesses. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, peut-être stratégiquement. Je pense que stratégiquement, Galtier, il dit que si c'était à refaire, il aurait fait la même chose. Et moi, je suis pas sûr que, notamment défensivement, on aurait peut-être pu faire mieux, quoi.
Moi, je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, on refera pas l'histoire. Est-ce que c'était notre pic de forme à ce moment-là? Je sais pas. Et si c'est le cas, c'est une énorme erreur de Galtier, du collectif et pareil, du manque d'expérience. Après, c'est peut-être allé un peu trop vite aussi. Peut-être que pour Galtier, tous les trucs se sont mis au vert assez rapidement. Hein. Tous les voyants se sont mis au vert assez vite. Et puis d'un coup, quand tout va bien, enfin, tu vois, si tu veux, juste tout va bien, quoi.
Mais du coup, on a eu cette grande année en 2022. Supposons potentiellement qu'on avait bien réussi à atteindre notre pic en 2023. T'as Galtier qui a sorti quelques chiffres pendant la conf de presse assez intéressants. Pour ceux qui suivent le foot, ça fait un certain temps qu'on a un peu les expected goals en foot. Faut savoir qu'en rugby, on les a aussi. Ils nous les montrent pas beaucoup. Mais Fabien Galtier, qui est un grand fan de data et qui a beaucoup de data scientist au sein du 15 de France, nous a sorti quelques chiffres pendant la conf de presse, dont un potentiel de marque, donc expected goals pour la France à 37 points par rapport à un potentiel de marque pour l'Afrique du Sud à 24 points. Score final 29-28.
N'en parle pas.
Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est l'inexpérience qui nous permet de pas convertir pendant qu'eux, ils en convertissent plus que ce qu'ils devaient convertir?
Est-ce que c'est pas la data qui se trompe, monsieur?
Ouais. Moi, les hommes mentent et pas les chiffres, hein, tu sais. Et lui aussi te l'a dit tout à l'heure.
Non, mais oui, les chiffres, on leur fait un peu dire ce qu'on veut aussi. Et c'est horrible, ça remue un peu le couteau dans la plaie parce que t'as l'impression que l'intelligence artificielle aurait voulu qu'on gagne, tu vois. En vrai, à un moment, comme dit Urios dans je sais plus quelle défaite de Bordeaux avec l'UBB, à un moment, on va enlever les capteurs, gros, et on va jouer avec nos bites et nos couteaux.
Et moi, je le sens, le rugby.
Et moi, je suis assez d'accord avec lui, tu vois. Et en fait, peut-être que ma blessure est encore trop ouverte pour pouvoir parler de ça.
Ouais, peut-être que la blessure est encore trop ouverte. Pendant que c'est encore une plaie, justement, peut-être qu'on peut se réconforter à parler un peu des années qui arrivent. 4 ans, on a parlé des 4 ans de Galtier passés. Là, il y a 4 ans de Galtier qui arrivent.
Ouais, 100%.
On avait, il y a 4 ans, une équipe de France qui avait 24 ans de moyenne. Aujourd'hui, on a une équipe de France qui a 27 ans de moyenne et 33 sélections. Fabien Galtier le martelait, une moyenne de 50 sélections pour gagner une Coupe du Monde. Et potentiellement qu'on aura 30-31 ans de moyenne en 2027 si on garde plus ou moins les mêmes joueurs. Bon, effectivement, il y a des joueurs qui vont rentrer dans le groupe,
oh,
des
ouais,
jeunes qui vont rentrer dans le groupe.
Il y a du monde qui tape à la porte. Hein.
Mais devinez quoi, si on garde les mêmes joueurs dans 4 ans, on est à 31 ans de moyenne et 66 sélections. Devinez à combien de sélections étaient les Sud-Africains en finale,
pareil,
en moyenne,
68.
66.
Ouais, 66. Bah écoute, moi Thomas, pour rebondir justement avec ta question d'avant encore, je pense que nous, notre pic de forme, t'as évoqué 2022, et je n'ai pas eu le temps de réagir, mais moi, pour moi, notre pic de forme, c'est même 2024. Déjà, on sait que les années paires, on sait que les années paires, entre guillemets, on a un calendrier pour le tournoi destination qui est favorable, donc je pense que voilà, 2024, c'est encore notre année. Et c'est surtout que, moi, je ne le vis pas forcément comme un échec, cette Coupe du Monde-là, parce que comme on le disait, il y avait... Le changement entre 2019 et 2023, ça devait nous servir de période charnière. Et bon, c'est facile de le dire après, mais moi, je ne voyais pas gagner. Et là, quand tu vois...
Ouais, d'accord.
C'est très facile de le dire après.
Ah ouais, gros. De toute façon, t'as vu tout le monde gagner et tout le monde perdre. Donc,
non, la seule équipe pour laquelle je suis pas parié, c'est la France. On a tous voulu y croire, mais on savait qu'une Coupe du Monde à la maison, seulement 3 ans après avoir été ridicule pendant toute une décennie, c'était peut-être un petit peu trop précipité. Et bref, quand tu vois le mondial, pour ceux qui ont suivi le mondial U20 avec nous, l'équipe de France, on le rappelle, ils ont gagné de 50 points ou de 30 points en finale, de 30 points en demi-finale. Donc les U20, cette génération que moi je pense qu'on peut appeler la génération dorée, elle a encore plus faim que la génération des Dupont, des Tamac, etc. On pourrait citer Gaëtan, on pourrait citer Nicolas Deporter, Jégou, Louis Elberry qui était déjà là, Nouchi, le capitaine de l'équipe de France. Et tu vois, moi je pense que tous ces mecs-là, complémentés avec les Penaud, les Dupont, les Ntamack, les Ramos, tous ces mecs-là qui sont encore jeunes et qui ont d'expérience, voilà, là, honnêtement, ça fait rêver et moi, ça me...
Les mets à fou, messieurs, les Français, mets à fou, depuis aujourd'hui, ou hier.
Et même les Tuilagi, même tous ces mecs-là, là, on a tous les meilleurs joueurs du monde qui sont en train d'éclore dans nos mains, dans notre championnat, tu vois. Et quand tu vois comment tous ces jeunes Français, ils ont roulé sur les Irlandais il y a 6 mois en Nouvelle-Zélande pour la Coupe du Monde, tu te dis que... Et moi, je maintiens ma théorie, les gars. Moi, je pense vraiment que dans 5-6 ans, on est les seuls sur la scène internationale du rugby, tu vois. Moi, je pense qu'elle est pour nous, cette 2027 et cette 2039.
L'avenir est clair. L'avenir est ensoleillé.
Radieux. Moi, j'y crois, mais on a envie d'y croire. Évidemment, nous sommes Français, messieurs, mais il y a peut-être un point noir au tableau. Ouais. C'est l'accord FFR-LNR qui va être potentiellement renégocié. On ne sait pas si on va bénéficier des mêmes conditions de travail. T'y crois, toi, Elios, à 4 ans de débandade, d'abondance de joueurs pendant ces périodes internationales?
Moi, j'y crois peut-être un petit peu moins qu'entre 2019 et 2023, parce que tu avais cette Coupe du Monde en France qui habitait tout le monde, et cette Coupe du Monde, elle était encore au-dessus des clubs, encore au-dessus du championnat. Donc, je pense que les managers et les présidents ont un peu mis leurs préoccupations de côté au profit de l'équipe de France. Et je ne suis pas forcément sûr que ce soit le cas encore là, pour les prochaines années. Et un truc qui va beaucoup chambouler l'organisation du calendrier, c'est surtout la Nations Cup qui arrive en, c'est quoi, 2025, la nouvelle compétition de World Rugby. J'entendais Galtier dire tout à l'heure sur RMC, le 6 Nations plus cette Nations Cup qui va remplacer la tournée, ça fait qu'il y aura encore moins de place pour le top 14, et du coup il y aura encore plus un chamboulement au niveau de la LNR et des accords entre la LNR et la FFR. Donc ça va être quelque chose à regarder de près aussi dans les années à venir. Ça va pas forcément être à l'avantage de la France et de son championnat.
T'es en train de me dire qu'il va y avoir encore plus d'épisodes du rugby show?
Oh là. Ça va être chaud, gros.
Oh là 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 là, ça va être très compliqué.
Ce que disait Galtier, et je suis à moitié d'accord avec lui, c'est que bon, l'équipe de France, c'est la locomotive du rugby français. Quand l'équipe de France va bien, le reste du rugby français va bien. Enfin, en tout cas, on l'a vu pendant ces 4 années. 2 victoires de La Rochelle en Champions Cup, 1 victoire de Toulouse, ça nous a quand même mis bien au niveau européen. Après, t'as aussi les recettes, hein. La FFR, 90% des recettes, ça vient des stades, et les stades sont pleins en ce moment, donc indirectement, ça bénéficie au rugby amateur, ça bénéficie au rugby pro, donc au final, l'équipe de France entraîne le rugby français dans son sillage.
On avance, on avance, on avance, c'est une évidence, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens.
Mais du coup, oui, on a vu le grand succès de cette Coupe du Monde. Bon, on sait qu'elle s'est arrêtée un peu tôt avec l'élimination d'équipe de France, mais comme disait Thomas, les stades sont pleins, les canapés sont pleins, les audiences font des records match après match. Moi, Clément, je voulais te poser la question. Est-ce que toi, tu penses que le top 14 va pouvoir surfer pendant ces 2-3 prochaines années sur, entre guillemets, la réussite de la Coupe du Monde? Et est-ce que vraiment, on va avoir un avant et un après Coupe du Monde, même maintenant qu'il n'y a plus que le top 14?
C'est une très, très bonne question que tu poses là. Il y a un espèce de truc qui est que quand c'est une équipe nationale qui joue, t'as évidemment plus d'engouement et plus de ferveur.
C'est sûr.
Quel que soit le sport. Ce qui est certain selon moi, c'est que ça sert, comme le disait Thomas aussi, c'est la locomotive du rugby, l'équipe de France. Et donc évidemment, ça sert la notoriété de notre championnat, ça sert la notoriété du mot. de rugby en soi, mm-hmm. et donc ça sert à la notoriété du jeu, ça sert à la notoriété du quotidien. Mm-hmm. On va voir, hein, est-ce que les stades seront encore plus pleins cette année en top 14, on va voir quel est l'engouement qui se passe, on voit qu'il y a énormément de joueurs étrangers qui arrivent et qui vont remplir, qui remplissent notre championnat, mm-hmm. donc évidemment que même à l'international, les yeux sont de plus en plus rivés sur le championnat et sur le top 14. Après, la vérité, c'est que c'est un sport qui demande une connaissance. Enfin, c'est un
pas
sport
très accessible, qui, ouais. C'est pas forcément hyper ouais, accessible.
Pas très accessible, exactement, qui demande un engagement en temps assez énorme. Tu regardes pas un résumé de football de la même façon que tu regardes un résumé de rugby, par exemple. Donc
le résumé de rugby, il est explosé. Tu vois que des coups de pied de pénalité ouais, déjà.
Exactement.
Donc,
exactement. Mais moi, tous mes potes qui aiment le foot. Tous mes potes qui aiment le foot peuvent se faire les résumés de la Ligue 1 à la fin d'un week-end, se faire le résumé des coups de pied de top 14, c'est déprimant hein, parce que tu comprends rien. Donc c'est un sport qui demande de l'engagement, c'est un sport qui demande de s'y intéresser vraiment. Alors j'ai bon espoir que notre top 14 va gagner en notoriété, mais bon, ça, à mon avis, ça va pas se faire du jour au lendemain.
Ouais, il faut pas oublier d'où on vient. Comme il y a en 2007, tu demandais à n'importe quelle personne dans la rue, tu lui demandais alors t'aimes le rugby, il disait ouais, c'est un gros sport de bourrin, il y a juste Chabal avec sa barbe et ses cheveux longs, tu vois. Et donc on part quand même de loin sur l'image que le rugby a chez entre guillemets le citoyen lambda.
Et je pense que maintenant Chabal il s'est fait remplacer par Dupont.
Ouais, et là on va dans la bonne direction, tu vois. Les gens, ça, ils commencent à s'intéresser de plus en plus. Et Rome ne s'est pas construit en un jour, si je décorche pas cette expression. mais du coup, ouais, moi je pense qu'on va dans la bonne direction et que le rugby va continuer de se développer et d'avoir une croissance très très positive. Donc moi je me fais pas de soucis et je pense qu'on va surfer là-dessus et que c'est que le début.
Après, tu parles de réussite de la Coupe du Monde, sortie en quart de finale, bon, moyennement réussi. Hein.
Non, mais je parlais pour le rugby en général, pas pour l'équipe de France en tant que telle sportivement, niveau
ouais,
du résultat.
Ouais, c'est quand même.
Je suis pas d'accord, hein. C'est pas une réussite au niveau du rugby. On nous promettait une Coupe du Monde avec plein d'essais, du jeu dans tous les sens, World Rugby qui favorisait l'attaque sur l'arbitrage. C'était, selon moi, pas le cas.
Bah, ouais, mais parce que. Oui. Bon, on peut finir là-dessus, je pense. Non, mais en gros, je voulais dire que pour l'amateur lambda, je pense que si, le rugby l'a beaucoup plus impacté, mais c'est vrai que nous, on s'attendait à autre chose parce qu'on avait d'autres attentes qu'un mec qui connaît pas le rugby.
Parce que ça fait 4 ans que Galtier nous montre le beau chemin avec cette Coupe du Monde, ça fait 4 ans qu'on l'attend, nous, on n'en peut plus. On n'en pouvait plus.
Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer bonsoir.
Et merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. 25 jours de silence, ça fait du bien d'entendre Fabien et ça fait du bien pour enfin enterrer ce deuil, de faire une petite rétrospective de cette Coupe du Monde. On sait qu'on a des belles années lumineuses à venir. D'ailleurs, on remercie encore une fois le Bon Maillot qui nous fournit des magnifiques coffrets mystères. D'ailleurs, vous savez que vous pouvez retrouver les t-shirts du Rugby Show dans les coffrets en carton de Bon Maillot. J'ai eu la chance d'ouvrir mon coffret ce matin et j'ai trouvé un magnifique t-shirt. C'est un peu la démonstration, excusez-moi. Voilà.
Ah, c'est chaud, gros.
C'est chaud, gros.
Les t-shirts sont toujours disponibles. N'oubliez pas de les commander en ligne.
Et pareil que quand t'écoutes l'épisode avec le t-shirt, il chauffe.
Avec la petite brise qui s'installe en ce moment là en début novembre, c'est pas de refus. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir écoutés et surtout n'oubliez jamais, mais alors jamais,
jamais, le rugby,
jamais, jamais, jamais.
C'est quoi le rugby?
C'est chaud, c'est chaud. Oh, mais putain, l'avenir il est radieux. C'est le rugby chaud, t'inquiète pas que tu vas en entendre parler encore et encore.
Allez, vas-y, coupe-moi ce recording qui dure une heure.
Rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, rugby show, bienvenue au rugby show.